mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis à mot. Et après, tu dis mot et je dis à mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.
Bienvenue dans Mot à mot, l'émission société et politique qui donne la parole aux jeunes. Que pensent-ils de notre société, de la politique actuelle? Quel est leur ressenti par rapport à leur environnement? Et se sentent-ils vraiment concernés par les discours politiques? Aujourd'hui, nous recevons Sarai Ostos. Tout de suite, la présentation.
Bonjour les filles, merci. Pour votre invitation, ça fait plaisir. C'est des filles que je connais depuis un moment. On travaille ensemble à l'université et ça fait toujours plaisir d'être avec elles. Je m'appelle Sarai Ostos et comme vous voyez, mon prénom, il n'est pas très français. Donc, je viens du Venezuela, en Amérique du Sud. Et j'ai 30 ans, j'ai fait un diplôme en licence en traduction et interprétation à l'Université centrale du Venezuela. Donc, je parle anglais, français et espagnol. Et ça fait 5 ans que je suis en France. Je suis venue pour être assistante d'espagnol à Nantes, à Nîmes. Et j'ai continué avec mes études en un diplôme en master et un doctorat. Actuellement, je fais un doctorat justement avec Camille et Eva. Et en sciences du langage. Donc, en fait, on analyse les discours. On aime ça. On aime chercher les mots, savoir ce que ça veut dire, comment ça se passe ailleurs, la linguistique en général. Donc, je travaille sur la traduction. Et l'interprétariat. Et dans un contexte particulier, c'est dans les églises évangéliques protestantes, quand on invite quelqu'un qui n'est pas français, donc il a besoin d'un interprète. Donc moi, je travaille le discours interprété dans les églises évangéliques en France, donc c'est pas très connu. Donc c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça.
Est-ce que tu comptes retourner au Venezuela pour travailler ou t'aimerais rester en France?
Justement, je me posais la question, mais ça fait des années que je me pose la question, parce qu'à chaque fois, il faut renouveler mon titre de séjour. Et là, pour l'instant, je suis encore en doctorat. Et justement, à cause de la situation politique et économique du pays, je ne vois pas trop l'intérêt de retourner pour l'instant, parce que ça ne se passe pas trop bien, mais bon, on parlera de ça plus tard. Et donc, pour l'instant, je préfère rester en France. Je pourrais aider plus ma famille et mes amis en étant ici que retournant au pays.
C'est la rubrique Actualité. En France actuellement, là on enregistre en avance, on est à 4 jours après le premier tour des élections présidentielles. On est donc dans une actualité politique, on a d'un côté Marine Le Pen, de l'autre Emmanuel Macron. Est-ce que tu suis l'actualité politique en France ?
Comment vous dire ? Justement, la politique c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Moi, je viens d'un pays où la politique est très présente au milieu de la société. Donc, de ne pas penser à la politique, c'est vraiment pas pour moi. Parce qu'on vit dans un monde, dans une société où on est dirigé par des gens. On a les conséquences de ces décisions. Donc, bien sûr, je suis la politique actuelle en France parce que j'habite ici.
Est-ce que tu votes en France?
Non, on n'a pas le droit. Pour l'instant, j'ai un titre de séjour étrangère. Étudiante étrangère, donc je n'ai pas le droit, je n'ai pas la nationalité ni la naturalisation française, donc je n'ai pas le droit encore. Je vote pour les élections présidentielles chez moi, au cas où je suis ici, c'est dans le consulat vénézuélien à Paris, mais que les présidentielles, je ne peux pas voter pour les maires, législatives, etc., vu que je n'habite plus au pays, mais que le présidentiel.
Est-ce que tu aimerais voter en France ?
Oui, bien sûr. C'est un pays qui m'a accueillie depuis 5 ans et où, justement, je suis contente d'être là. Donc, si un jour, je peux, justement, profiter de ça pour pouvoir soutenir le pays ou ce que je pense par rapport à la politique, j'aimerais bien le faire, bien sûr.
Est-ce que tu connais un petit peu les candidats qui ont fait les campagnes présidentielles? Pardon, la campagne présidentielle. Est-ce que tu as des candidats qui t'ont plus marqué que d'autres?
Et en fait, qui ne suit pas l'actualité maintenant en France? On parle que de ça à la télé. Et moi, je suis logée chez des dames françaises qui suivent vraiment de très près l'actualité politique. Et Bien sûr, je connais les candidats, je connaissais les 11 qui étaient pour le premier tour. Et, qui m'ont marqué, bon, chacun avait leur projet de candidature, justement pour le gouvernement. Mais ceux qui ont marqué les esprits, c'est ceux qui étaient les plus forts, les candidats forts qu'on appelait. Enfin, Fillon, Le Pen, Mélenchon. Je n'ai pas un candidat préféré. Je trouve que il faut prendre un peu tous les programmes, un peu la meilleure des choses. Donc, je crois que c'est Fillon qui m'a un peu plus marqué à cause de tout ce qu'il s'est dit par rapport aux affaires. Et de voir comment ça a tourné, c'était vraiment impressionnant comment ça s'est passé. Mais pas vraiment des candidats préférés.
Est-ce qu'au Venezuela, la politique, elle est un peu similaire à celle de la France ? Quand il y a des présidentielles, est-ce que ça se passe un peu de la même façon ?
Justement, c'est un peu compliqué la situation au Venezuela parce qu'il faut revenir en arrière. Ça fait 18 ans que l'extrême gauche est au pouvoir. Donc, moi, j'étais vraiment très petite quand ils sont arrivés dans le gouvernement avec Hugo Chavez, comme vous connaissez. Il est déjà décédé il y a 2-3 ans, je crois. Et en fait, normalement, c'est un régime démocratique parce qu'on a le droit de voter pour les présidents. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'actualité, on dit que c'est un peu une dictature, vu que toutes les élections, toujours, c'est la gauche qui gagne, enfin le même parti qui est dans le pouvoir depuis un moment. Donc, on se pose beaucoup de questions, surtout parce que les gens, ils sont dans la rue, ils manifestent. Donc, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne soutiennent plus le gouvernement et ils continuent à passer. Ils continuent à être là, à être les gagnants. Donc, on se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de manifestations actuellement. Donc, moi, ce que j'apprécie en France, c'est cette démocratie. On peut voir, justement, on peut avoir un débat, par exemple, entre les candidats. Chez nous, je n'ai jamais vu ça. Déjà, ce n'est pas possible parce qu'ils peuvent même se prendre la tête, se taper dessus. Enfin, ce n'est pas très démocratique. Je n'ai jamais vu ça. J'aimerais vraiment avoir ça pour pouvoir choisir le programme de tel, pour pouvoir sortir un peu de ce qu'on a vu depuis 18 ans.
Est-ce que les Vénézuéliens, je reviens un petit peu sur le Venezuela et Chavez, dans ton entourage, comment tu peux ressentir ce que pensent les autres par rapport à Chavez et par rapport à cette extrême gauche qu'il y a au Venezuela ? Est-ce que c'est bien amené ? Est-ce que c'est apprécié ? Est-ce que les Vénézuéliens sont heureux de cette politique ?
Bon, la situation, elle est compliquée, mais si je reviens en arrière, il y a 18 ans, les gens, ils en avaient marre de partis qui étaient au pouvoir. AD, c'est Action Démocratique, COPEC, c'était les partis à l'époque. Donc du coup, Chavez, il s'est présenté comme une solution alternative de toute cette politique qui était dans le pays depuis un moment. Donc les gens, comme ils ne voulaient plus avoir le même parti qui était dans le pouvoir, ils ont dit, Chavez, il n'a pas fait de carrière politique, il était un militaire. Donc il était un chef, un commandant de la militaire au Venezuela. Donc, ils l'ont vu comme un peu un sauveur à l'époque. Donc, il avait beaucoup de bonnes idées. Je ne peux pas dire que tout ce qu'il avait comme idéologie, c'était mauvais. Le problème, c'est qu'il était vraiment... Il a commencé à instaurer un régime socialiste, révolutionnaire, très des idéaux de Che Guevara. Il était très, très proche au gouvernement cubain avec Castro. Et du coup, il a instauré une idéologie extrême, c'est-à-dire comme il n'était pas pour le capitalisme, et il a coupé toutes les relations avec les pays qui nous fournissaient, par exemple, nous on a le pétrole, c'est notre produit principal au Venezuela, et du coup, il avait des usines des gisements de pétrole, justement, qui nous aidaient. Ils nous achetaient le baril de pétrole et ils le produisaient chez eux, par exemple aux États-Unis, au Brésil. Comme il n'était pas d'accord avec la politique de ces pays capitalistes, les gros capitalistes, il a coupé les relations. Donc, c'est là qu'a commencé la crise économique. Parce que c'est vrai, on a du pétrole. On est dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. On est l'un des plus grands pays. Mais comme il a coupé ses relations, il a voulu faire tout au Venezuela. Et nous, on ne savait pas gérer ça parce qu'on dépendait de ça. Donc, en fait, il n'a pas développé des moyens alternatifs pour pouvoir l'économie, pouvoir s'en sortir. Donc, c'était comme une boule de neige, en fait. Ça commençait comme ça. Comme il coupait les relations, la production nationale ne suffisait pas. Et donc, maintenant, on est en pénurie, vu qu'on n'a pas su, dans les années d'or du pétrole, on n'a pas su vraiment... le gérer, et là maintenant c'est les années difficiles vu que le prix du pétrole est descendu, et non, on ne sait pas s'en sortir parce que la production nationale, par rapport à l'agronomie, agriculture, etc., on ne sait pas le développer.
Sujet politique.
La campagne présidentielle en France s'est organisée autour d'un point qui était des fois sujet de discorde, la question de l'Europe. Donc certains candidats étaient pour une sortie de l'Europe ou de l'euro, d'autres étaient pour relancer l'Europe. En parlant de crise, est-ce que, alors tu l'as un petit peu abordé, mais est-ce que ça se voit justement cette crise aussi au Venezuela?
Par rapport à l'Europe ou en général?
Par rapport à la situation qu'on peut connaître en ce moment, on dit la crise, on parle de l'Europe, mais en nous ouvrant un peu sur d'autres pays, est-ce que cette crise aussi, elle est visible dans les pays qui font pas partie de l'Europe ou...
Oui, je ne sais pas si vous connaissez, mais en Amérique du Sud, il y a quand même, c'est pas l'Union européenne, mais il y a l'Union des pays du Sud ou de Mercosur, ça s'appelle comme ça. Donc du coup, c'est des rassemblements des pays proches qui se sont créés justement pour développer cette économie interne. Le problème, c'est que justement comme notre gouvernement, il y a une idéologie très, très ancrée. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, les pays qui n'étaient pas d'accord avec eux, et du coup, ils coupaient les relations. Donc, et on voyait les discussions au Mercosur ou dans ces institutions, et c'était dès que l'autre commençait à parler, j'étais pas d'accord. Donc, on n'arrivait pas à avoir des solutions. Pourquoi? Parce que quand tu as une idéologie ancrée en toi, même si tu as la réalité devant toi, le changement, tu vas toujours viser à ce que tu crois, même si tu as les solutions dans tes mains. Donc, si eux, ils n'étaient pas d'accord avec les accords avec les États-Unis, le Mexique, les gros pays, ils n'allaient jamais être d'accord, même si on leur montre que c'était vraiment un bon moyen pour s'en sortir. Donc, moi, je crois que si on a l'Union européenne, c'est pour avoir quand même des décisions en commun, pour pouvoir avoir des solutions à des crises qui nous touchent à tous, parce que c'est les mêmes partout. Et si on ne respecte pas l'autrui, les autres, on ne pourra pas s'en sortir. Donc s'il y a l'Union européenne, il y a ses avantages, aussi ses inconvénients, mais il faut profiter de cette union pour pouvoir améliorer l'économie.
Et ça rejoint ce qu'on discutait toutes les deux pour préparer l'émission, quand tu nous as dit que tu aimerais bien venir parler du Venezuela, et tu m'en voudras pas d'en parler, tu m'as dit, quand je vois donc les candidats qui restent au second tour à la présidentielle française, ce qui était intéressant, c'est que tu m'as dit, moi je le vois par rapport à mon pays, que ce soit extrême gauche ou extrême droite, quand on passe du côté de l'extrême, on ne peut plus s'en sortir. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Comment tu l'expliques?
Oui, et j'ai suivi les discours après les résultats du premier tour et j'ai vu le discours de Fillon. Et à la fin de son... il incitait les gens à voter pour Macron. Et il disait, l'extrémisme, j'ai noté, l'extrémisme ne peut qu'apporter du malheur et de la division à une nation, à un pays. Et c'est justement ça qu'on vit maintenant au Venezuela. Parce que tu peux avoir des idéaux, tu peux avoir un courant politique, mais dès que ça devient extrême, tu rejettes justement l'autrui, la personne qui est là, qui est aussi vénézuélien, qui a aussi, qui est un être humain comme toi, c'est juste qu'il pense justement différent à toi. Ça crée des divisions. Donc le pays, c'est ça le gros problème au Venezuela maintenant. Il y a des gens qui suivent encore aveuglément le gouvernement parce qu'ils ont eu des aides, parce que c'est les gens les plus pauvres. C'était un gouvernement socialiste, donc on a enlevé aux riches l'argent pour pouvoir donner aux pauvres. Donc quand tu es pauvre, tu n'as pas les moyens d'avoir une éducation. Donc tu dépends de ce qui te donne le gouvernement, donc ils vont le suivre aveuglement. Et cette classe moyenne et la classe haute de la société... Et du coup, ils se sont retrouvés sans argent parce qu'on leur a enlevé, on a nationalisé des entreprises. Donc, cet socialisme, ce n'était pas unifier tous les gens pour pouvoir les préparer au même niveau, mais d'enlever aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Donc, c'est vraiment pas bien parce que c'est l'extrême. On n'aide pas la société en faisant comme ça parce que ce qu'on a maintenant, c'est qu'entre frères et sœurs vénézuéliens, on est divisé parce qu'on n'a pas le même point de vue.
Et ce qui est beaucoup revenu depuis qu'on a fait cette émission, il me semble qu'on est à la 15e émission, dès qu'on a des invités qui viennent d'une autre culture, donc on a reçu des Algériens, on te reçoit toi, on a reçu aussi des Bulgares, et chacun nous disait, moi dans mon pays c'est peut-être pas démocratique, j'ai vu la différence avec la France, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux Français pour protéger la démocratie par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'on peut jouir d'une démocratie qu'on voit moins dans certains pays?
Déjà, une des choses qui m'a plus marquée en venant en France par rapport à la différence interculturelle, c'est de voir comment un pays qu'on a quand même beaucoup de bonnes choses, des avantages, les gens ils se plaignaient assez souvent par rapport à la situation sociale, économique, ici en France. Et je me disais, c'est impressionnant de voir comment, moi, en venant d'un pays en voie de développement, de tiers-monde, on va dire, qu'on a beaucoup de pénuries actuellement, on a beaucoup de problèmes, la crise, etc. On essaye quand même d'avancer, de travailler, d'aller avec la meilleure des dispositions au travail, même si je sais que je ne vais pas avoir, par exemple, aujourd'hui, je vais avoir une coupure de l'électricité, etc. Donc, d'abord, d'être reconnaissant par ce qu'on a. Moi, j'ai un exemple précis. Hier, je suis un peu malade. Et je suis allée chez les médecins ici en France. Et de voir que le système de sécurité sociale en France, c'est l'un des meilleurs au monde. De savoir que je n'ai rien payé parce que je travaille, j'ai ma sécurité sociale, je paye tous les mois. Et je n'ai pas payé à la pharmacie, je n'ai pas payé le médecin. Et de se dire que chez nous, ce n'est pas comme ça. Aux États-Unis, c'est très cher. Et déjà, de reconnaître les bonnes choses qu'on a. Parce que dès qu'on commence à voir le côté négatif des choses, on ne va pas s'en sortir de là. C'est vrai. Et donc, je trouve qu'ici en France, il y a un assistanat qui s'est créé depuis un moment. Et les gens, ils ne savent pas reconnaître les bonnes choses qu'on a. Donc déjà, on peut avoir des points de vue différents, mais de profiter de ce qu'on a et voir comment on peut aider le pays et le prochain.
Tout de suite, la question finale.
En poursuivant sur du positif et en terminant sur du positif, si tu devais nous citer quelqu'un ou une entité, quelque chose de conceptuel aussi qui t'inspire, t'aimerais qu'on termine cette interview sur qui ?
Une entité,
une personne ou quelqu'un de ta famille ou vraiment quelque chose qui t'inspire et qui t'apporte du bonheur.
Ou... Oui, une fois j'ai reçu je parlais avec quelqu'un, il m'a dit une illustration, c'était une histoire. Il disait que quelqu'un avait demandé à dessiner la paix à plusieurs peintres. Et les gens, ils ont mis, je sais pas, la montagne, la mer, etc. Et le peintre qui a plus marqué les esprits, il avait dessiné un bateau avec une tempête énorme et il y avait des éclairs, etc. Il avait une petite colombe toute tranquille au bout du bateau. Donc il disait, pour moi, la paix, ce n'est pas l'absence des problèmes, des difficultés, mais de rester calme et de pouvoir profiter et de se dire, voilà, je suis dans un moment difficile, de voir qu'est-ce que je veux apprendre avec ça.
On va finir sur ces paroles de liberté, de paix, d'amour. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Divergence FM. Mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire « ah », c'est ça?
Tu mets... Ouais, je dis « mot », tu dis « amour ». Et après, tu dis « mot » et je dis « amour ».
Ah bon, mais il avait dit « ah ».
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées.
Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.